Précisément midi 19 à l'émission On en jase, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Vous avez été plusieurs à commenter l'entrevue avec Éric Girard. Vous savez que les auditeurs Antonine et Pascal sont pas très heureux de toutes les dépenses de la CAQ dans les 8 dernières années.
Ouais, on m'en doutais que les commentaires devaient pas être dithyrambiques.
Non, on parle beaucoup justement d'équilibre budgétaire. Donc, c'est ce qui ressort. Continuez à commenter. 418-971-1021. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est une façon de nous écouter également. BLVD 1021. Télécharge l'application sur le App Store, Google Play Store pour nous écouter partout où tu vas, twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Excellent podcast des entrepreneurs de Joannie Fortin, notre collègue à Weekend Radio, qui s'y retrouve avec Vanessa Babos, la propriétaire des Cafés Sobab. Allez écouter ceci. Avant de continuer à analyser ce budget avec Antonine dans le caucus, Pascal, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Oui, dans les dernières minutes, il y a un homme de 31 ans qui a été arrêté. En fait, on l'a appris, mais ça s'est fait ce matin pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. Ensuite, il a été libéré par voie de sommation. La perquisition, c'était dans le secteur de Beauport. Des items qui ont été saisis. Hein, on ne chante pas du côté des policiers ces temps-ci. 500 grammes de cocaïne, environ 16 000 comprimés de méthamphétamine, environ 350 comprimés de médicaments d'ordonnance, 3 cellulaires, une veste par balle et plein d'objets divers liés à la revente de stupéfiants. On est vraiment actifs sur le territoire. Tu l'as dit, on va reparler du budget dans quelques instants. Juste faire une petite parenthèse sur la réaction de notre maire, hein? Bruno Marchand, maire de Québec, qui s'est montré extrêmement mécontent du dernier budget du gouvernement de François Legault, notamment concernant le logement et les infrastructures. Pour lui, on est dans le sous-financement. Il dit qu'on est tous dans le trouble. Et il a dit ça à Calgary parce qu'il était de passage et il estime, en jasant avec son homologue, le maire de Calgary, que toutes les villes canadiennes se retrouvent devant d'énormes défis pour maintenir et entretenir leurs infrastructures. Il y a des trains qui transportent des centaines de kilos de cocaïne et de méthamphétamine qui sont cachés dans des voitures neuves et qui entrent au Québec plusieurs fois par mois. C'est ce qu'a découvert le bureau d'enquête de Québécois, mais on peut lire dans le journal que les cartels mexicains ont changé leur méthode d'exportation. Ça prend 2 semaines. On part du Mexique et on arrive ici, près de la capitale nationale. Et on fait en sorte que le trafic roule de cette manière-là.
Dans des belles Buick.
Exactement. Puis, clin d'œil à Pierre Poilievre, qui a livré son périple de politicien sur le très connu podcast de Joe Rogan Experience.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Bon, Antonin Iaccarini, on a une partie de fête du caucus avec cette entrevue avec Éric Girard, qui a critiqué le fédéral à 3 reprises.
Ben oui, toi.
Ça me tanne, moi, ça. Je sais que c'est peut-être vrai qu'il y a plus d'argent, qu'il faudrait qu'il vienne du fédéral. Puis là, ils mettent des conditions. Puis ça nous fait pas notre affaire au Québec. Puis là, on s'assigne pendant 1,5-2 ans avant que l'argent soit débloqué. Je sais que c'est une réalité. Mm-hmm. Mais ça m'énerve quand on fait juste regarder le voisin puis on se regarde pas.
Ben moi, sur les infrastructures, je me disais oui, OK, certes. Mm-hmm. Après ça, il a continué à une autre prise. C'est pour le tramway. Ouais bon. Mais là, rendu sur l'itinérance, je suis désolée, mais c'est vraiment pas au fédéral de gérer l'itinérance.
Ben non,
à un moment donné,
c'est un problème social au Québec, mais au Canada aussi. Là,
j'ai décroché. Mais...
Oui, c'est ça. Ça, c'est le ministre des Services sociaux, puis ça n'a pas d'attache avec le fédéral, à moins que tu me dises le contraire.
Ben, il nous a servi la réponse qui a servi au maire Bruno Marchand, finalement.
Oui, mais moi, c'est ça. J'achète pas cette affaire-là parce que on peut, tu sais, il y a un déséquilibre fiscal avec le fédéral. Et quand le fédéral s'engage dans une compétence ou dans un dossier, après se désengage, bien sûr que ça a un impact financier. Mais à la base, c'est pas au fédéral de gérer l'itinérance. Déjà que le fédéral se mêle de logement beaucoup maintenant, en plus se mêle de santé. T'sais, je veux dire, à un moment donné, il faut être conséquent. Donc là, j'ai décroché à ce moment-là. J'ai trouvé que pendant l'entrevue, on lui a posé des questions sur toutes sortes de dossiers. Moi, j'étais très curieuse de savoir s'il avait trouvé ça difficile de faire ce budget-là, parce que le contexte n'est pas évident pour lui. Et surtout que c'est un budget qui s'adresse très peu à la classe moyenne.
En effet.
Donc, à l'électorat. Parce qu'on est à quelques mois des élections. Je trouve que c'est un budget qui s'adresse d'abord beaucoup aux entreprises, encore beaucoup d'aide aux entreprises, notamment l'industrie forestière, les tarifs, tout ça. Donc, c'est bien normal. normal. Les entreprises, par contre, ne votent pas aux élections, là, aux dernières nouvelles. Donc, il fallait le faire, mais c'est sûr qu'à quelques mois des élections, ce n'est pas toujours ce qui va faire voter monsieur, madame, tout le monde. Après ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sensibilité dans ce budget-là pour les personnes plus vulnérables. Donc,
oui.
Tu as posé la question, notamment la question de l'itinérance. Les banques alimentaires reçoivent des sous. Il y a quelques mesures pour les personnes moins nanties également.
Les trouve toujours bons, les banques alimentaires, j'aurais dire bonnes, de demander aussi peu. Ouais. Ils demandent 60 millions
tu
dans le budget
beaucoup, hein?
du Québec. Ben non, t'sais, va faire du bénévolat à Boucher Généreux. Tu te retrouves dans l'ancien garage de Sears, t'es tout pogné entre 8 casseaux de concombre.
T'sais, ils font beaucoup de chemin avec chacun des dollars, ces banques alimentaires et ces organismes communautaires-là.
Ils pourraient demander 120 millions, ils pourraient demander 240 tant qu'à moi pour avoir des bâtisses opérationnelles où il y a un monde charge que c'est pas le bénévole de 70 ans qui prend en caisse à bout de bras.
Je suis d'accord.
De pommes, puis vu que sont dans des organisations à but non lucratif, ils en demandent juste 60.
Oui, puis ils font beaucoup avec très peu. Mais bref, tout ça pour dire que même si c'est un budget qui est quand même, je ne vais pas dire austère, mais on va l'appeler, on va reprendre la spin gouvernementale et dire sobre et ciblé.
Ouais.
J'ai trouvé qu'il y avait quand même une sensibilité pour les personnes plus vulnérables. Il y a un aspect social qui est moins présent chez la CAQ depuis leur arrivée, qui était beaucoup plus axé sur l'économie et l'identité. Il y a quand même une sensibilité ici.
La maison est-tu en ordre comme François Legault l'a dit?
Bon, est-elle en ordre? Elle est un peu en désordre, mais au moins elle n'est pas en feu. Moi, je trouve que la
le
situation...
Le feu, c'était l'année passée?
Oui, le feu, c'était l'année passée.
Elle est à la hauteur de nos infrastructures, on dirait.
Oui, en fait, c'est que je trouve que c'est sous contrôle. Donc, on n'est pas dans une situation hors de contrôle. De là à dire que la maison est en ordre, je suis pas convaincue. Mais c'est un budget aussi dans lequel M. Girard souhaitait envoyer un message aux agences de notation. Plus, ça, c'est une autre affaire qui est très loin des électeurs et de la classe moyenne. Mais on en a discuté avec lui. Le Québec a vécu une décote. Peut-être que les gens ne comprennent pas trop l'impact que ça peut avoir dans leur vie, mais ça a beaucoup d'impact sur les finances publiques. Est-ce qu'on paie comme intérêt sur notre endettement? Et en ce moment, ben, y a un défi où est-ce que nos infrastructures sont délabrées, mais on a été décotés parce qu'on considère qu'on a trop investi dans les infrastructures. Donc, vous voyez un peu le funambulisme qu'Éric Girard doit faire. Puis, je sentais que c'était vraiment ça qu'il voulait léguer avant de partir. Donc, quand on dit la maison est en ordre, pour nous, ça peut sembler étrange avec un déficit,
avec
de, 9
un déficit de 9 milliards. Moi, ça me semble très étrange.
Mais on essaie de remettre les choses en contrôle face aux agences de notation et d'avoir un plan un peu plus clair vers le retour aussi à l'équilibre budgétaire.
Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est un budget qu'on aurait dû voir peut-être avant pour M. Girard, d'être sobre et ciblé, de faire attention de ne pas arriver avec des promesses, de faire attention de ne pas arriver avec des nouveaux investissements qu'on ne peut pas se permettre?
Oui, en fait, c'est que le bilan du ministre des Finances, Girard, à mon avis, se voit en 4 temps. Puis le premier temps, c'est au début du mandat de la CAQ, premier mandat de la CAQ 2018-2019-2020, et ils sont arrivés, il y avait des surplus, et peut-être, c'est sûr que si on voyageait dans le temps, on se dirait, bon, ben on va en mettre de côté, hein, parce qu'il y a des jours moins heureux qui s'en viennent.
Comme tu nous disais hier avec la cigale et la fourmi.
Exactement. Donc, on a été un peu cigale du côté du gouvernement. Ensuite, ça a été la pandémie. Et ça, bien qu'il y ait des gens qui trouvent qu'elle a le dos large, la pandémie, bien, toutes les juridictions dans le monde ont vécu des contre-coups et l'inflation qui s'en est suivie par la suite. Et finalement, on termine avec les tarifs de M. Trump. Donc, oui, on se dit, bon, bien, revenons dans le temps. Et soyons plus fourmis, et ce budget-là aurait dû avoir lieu, mais c'est irrésistible pour un gouvernement qui vient d'arriver avec 200 promesses électorales à réaliser. Là, la CAQ, là, ils sont arrivés au pouvoir, là, ils en avaient promis des affaires.
Ouais, ça faisait 4 ans qu'ils étaient dans l'opposition, puis ils faisaient juste ça, des promesses.
Bon, donc là, puis d'ailleurs, en 2022, pendant l'élection, ils n'en ont pas fait 200 promesses. Hein. On était plus autour de 75 promesses, disons.
Oui, j'attends encore la réduction de la taille de l'État.
C'est fou, les textos qu'on reçoit. Ils ont été irresponsables. Il y a des gens qui disent, il me semble que pour nos finances, on en met de côté. Ça aurait dû être la même chose pour le provincial. Les gens sont mécontents.
Ouais. Je suis un peu d'accord avec eux, mais que voulez-vous, la politique étant ce qu'elle est. Puis les commentaires sont aussi le reflet d'une usure du pouvoir normal aussi. Là.
Débat ce week-end à Québec entre Bernard Drainville et Christine Fréchette. Le prochain premier ministre ou la prochaine première ministre va être nommée le 12 avril prochain. Ça fait sourciller les oppositions qu'il y ait de l'argent réservé à ce nouveau ou cette nouvelle première ministre. On écoute André Fortin du Parti libéral du Québec et la réplique de France-Hélène Duranceau, qui est justement la présidente du Conseil du Trésor.
Pour dire aux Québécois, ou dire aux partis politiques, pardon, il va falloir que vous soyez sobre au cours de la prochaine campagne. On n'a plus de marge de manœuvre au gouvernement du Québec. C'est eux qui ont dilapidé les fonds publics. C'est eux qui ont fait en sorte qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Ça, c'est le résultat de 8 années caquistes, là. Et ça aurait été le fun qu'il s'écoute dans son propre budget.
Exact.
Il s'est donné 1,3 milliard pour son prochain premier ministre.
Là, ça, c'est de la petite politique. Le budget va être passé date. Chaque fois qu'il y a une mise à jour économique, qu'il y a un énoncé fiscal, on ajoute...
Sur 5
ans, je pense que c'est important de le modifier. Là, pour l'année 2026-27, c'est 250 millions sur 170 milliards de dépenses programmes et fiscales. C'est marginal, là. C'est pas un montant qui est énorme.
Qui dit vrai, André Fortin, avec le ministre Girard qui n'aurait dû ne pas réserver cet argent-là et le distribuer immédiatement, ou France-Hélène Duranceau qui appelle ça de la petite politique?
Tu sais comment je suis nuancée hein, dans la vie, alors je vais trancher la poire en deux
en
disant que c'est de la politique. Je la trouve pas petite, mais c'est juste la politique. C'est bien normal, t'es un parti d'opposition, puis tu vois cette enveloppe-là qui est réservée pour Bernard Drainville ou pour Christine Fréchette. Mais dans les faits, c'est des pinottes.
Ben oui, c'est des pinottes.
Ils laissent pas énormément de marge de manœuvre à un nouveau chef, à une nouvelle première ministre, peu importe. Finalement, c'est bien normal qu'un nouveau premier ministre, qu'un nouveau chef ait des choses à réaliser. Donc, c'est le compromis qu'on a trouvé. Mais c'est vrai que ça donne... Il y a beaucoup de questions qui ont émané. Hier, on recevait des textos, puis les gens se demandaient est-ce que le budget tient toujours si la CAQ, l'automne prochain, perdait l'élection? Donc, l'enveloppe du nouveau chef ou de la nouvelle chef, là, ça a l'air sur 4 ans. Mais tu sais, si le prochain gouvernement veut tout refaire ce que la CAQ a fait, c'est tout à fait dans son droit. Et puis, s'il ne veut pas là, faire des mesures budgétaires avant le prochain budget, le printemps prochain, bien, c'est de lancer le budget de la CAQ qui continue de s'appliquer. Et puis, le gouvernement peut agir de d'autres manières qu'en jouant dans le budget comme tel. Mais ça l'a dit, c'est bien normal que Mme Fréchette, M. Drainville ont promis certaines choses. Notamment, M. Drainville a promis plus d'accès à la fécondation in vitro. Avec le montant qui a été laissé, je penserais pas que ça couvre juste cette promesse-là.
Exactement.
Et on nous a promis aussi des baisses de taxes sur l'essence. Là. Donc, on verra si ça
J'ai aimé la réponse d'Éric Girard à cet effet-là, de dire c'est une situation ponctuelle qui peut se régler rapidement. D'ailleurs, pour information, il y a 5 pays présentement de l'OTAN qui ont dit « on va peut-être aller vous aider finalement les États-Unis pour débloquer ce détroit-là ». Donc, ça se peut que dans 2 semaines, on n'en parle plus.
Oui, mais tu sais, c'est la meilleure façon de se mettre à l'abri des soubresauts des prix de l'essence, c'est de réduire notre dépendance à l'essence et aux hydrocarbures.
Oui,
ça comme ça.
Ouais, mais ça, là-dessus, je te rappellerai. Puis là, tu sais, je vais me faire le porte-parole des auditeurs là, qui habitent en banlieue puis qui ont 2 enfants, un à la garderie, un à l'école. Bien, ils n'ont pas le choix d'utiliser leur char.
Oui, mais on a le choix aussi d'acheter des véhicules électriques éventuellement. Moi, je pense, puis je mets pas ça la responsabilité individuelle sur les gens comme tel, mais je pense aussi que comme société, on doit miser sur réduire notre dépendance. Là, je mets pas ça sur le dos de la famille de 3 enfants à Charlebourg.
En même temps, tu sais, c'est 11 000 $ de plus une acquisition de VUS présentement électrique par rapport à essence. C'est un coût à donner drette là en partant. Puis les gens n'ont pas d'argent.
Avec l'augmentation du prix de l'essence, je te dirais que les ratios risquent de bouger. Mais cela dit, c'était juste un petit commentaire.
Non, je sais.
Parce que je trouve ça électoraliste de la part de nos candidats à la chefferie de promettre des baisses du prix de l'essence plutôt que de promettre des mesures plus durables dans le temps pour éviter que les gens, ça leur coûte tout le temps super cher.
C'est peut-être moi qui saute à pieds joints sur ce que tu as dit. Mais je trouve ça très moraliste envers les gens, la phrase de faut diminuer notre dépendance au pétrole.
Ça s'adresse au gouvernement. Voilà.
C'est quand même difficile pour certaines personnes. Antonine, tu nous as amené un invité.
J'ai fait ça, oui.
Ben oui, présente-nous-le.
Parce que vous savez qu'à peu près la moitié du budget qui s'en va à la santé, hein, c'est pas la petite enveloppe, le petit coussin Drainville Fréchette dont on discutait il y a un instant. Et ça fait maintenant bientôt 1 an et demi que l'Agence Santé Québec est maintenant en opération. Et il se passe énormément de choses encore dans notre réseau de la santé. C'est pas réglé avec les médecins spécialistes. Les gens sont en train, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se faire inscrire sur des listes avec des médecins de famille. Ça continue de bouger. Et là, cette semaine, on a beaucoup parlé de chiffres et tout ça, mais la priorité numéro un des Québécois, ça demeure quoi? La santé, c'est encore et toujours un sujet d'importance. Donc, j'ai eu envie d'inviter Yann Langlais-Plante de l'Agence Santé Québec, ou de Santé Québec maintenant, comme on dit. La Société de toi, Santé Québec, pour faire un petit bilan de ce qui a été réalisé à date, de faire le tour un peu des dossiers, puis aussi de parler de ce qui s'en vient dans les prochains mois. Yann Langlais-Plante, bonjour.
Allô.
Yann, je vais commencer avec la première question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que fait Santé Québec? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Santé Québec, on a énormément de textos des auditeurs qui disent « C'est quoi cette affaire-là, là? Santé Québec? C'est une espèce de sac qui ne sert pas à grand-chose.
» Non, c'est pas ça du tout. En fait, on est une nouvelle société d'État dont les lumières ont allumé, si vous me permettez l'expression, le 1er décembre 2024. Et notre mission principale, c'est de gérer les opérations du réseau. Donc, plutôt qu'avoir 30 établissements qui sont sur le territoire avec des entités juridiques, des noms différents, bien, vous avez une entité qui gère l'ensemble du réseau qui s'appelle Santé Québec. On est le seul employeur unique aussi du réseau à 325 000 employés. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien, gérer les opérations du réseau puis s'assurer que les soins et les services à la population se donnent de la meilleure façon possible.
Maintenant qu'on comprend bien ça, quels sont les bénéfices de Santé Québec? Quels sont les objectifs que vous avez réussi, peut-être pas à atteindre parce que c'est quand même assez nouveau, mais à avancer comparativement quand il n'y avait pas Santé Québec dans la dernière année et demie?
Bien, en fait, la première année, là, on a fêté, on n'a pas fêté, mais on a souligné notre premier anniversaire autour du 1er décembre l'an dernier. Fallu, la première année, là, c'est évident, puis on le disait, là, la nouvelle entité, la nouvelle agence, la nouvelle société d'État, fallait construire notre société d'État. Là. Puis ma présidente, chef de la direction, ma grande patronne, Mme Biron, a dit souvent en entrevue dans les premiers mois de Santé Québec, c'est elle-même qui était allée ouvrir le compte de banque de Santé Québec. Là, fait qu'on partait vraiment, comme dirait l'autre, from scratch. Donc, fallait construire la société d'État, mettre les équipes en place, amener les gens du ministère, tout ça, se donner des orientations, se faire un plan stratégique. Là, c'est pas sexy, mais il fallait quand même le faire pour se donner une destination. Puis en même temps, vous le savez, puis sûrement que vous allez avoir des questions là-dessus, fallait qu'on livre des résultats parce que les attentes étaient extrêmement élevées envers
nous.
Si
je me rappelle bien, Christian Dubé a dit « Vous avez 1,1 milliard de moins, puis opéré. »
Oui, il y a eu ça, mais en même temps, la population, ça fait plusieurs années, même voire décennies, qui attendent des résultats. Donc, c'est certain que c'est une pression qu'on sentait à l'interne, mais en même temps, c'est un engagement tellement important. Comme le disait Antonine, c'est la priorité numéro un pour la population. Donc, on s'est mis au travail rapidement, puis on a mis toute notre huile de coude puis nos cerveaux à faire le travail qu'on a à faire. Puis ça a donné des résultats. Peut-être qu'on les voit pas autant qu'on aimerait ça les voir.
C'est ça ma question, parce que, bon, on comprend la première année, on peut pas commencer à vous taper sur la tête, tout organiser, ça, c'est une chose.
Il y en a qui l'ont fait, par exemple, mais j'apprécie votre empathie.
L'affaire, par contre, que j'aimerais qu'on explore ensemble pour cette réponse-là, c'est qu'est-ce qui concrètement a été fait? Parce que j'ai l'impression que vous avez eu moins de pression, vous avez des déluges de discussions, de la difficulté avec les médecins, tout ça. Mais qu'est-ce qui ressort de ces premiers mois-là pour Santé Québec?
Bien, la mission de Santé Québec, au-delà de donner des soins, là, c'est de transformer le réseau. Il faut se rappeler un peu des discussions ou des échanges autour de la création de Santé Québec. Il y avait une fonction, une volonté de modifier nos façons de faire, de changer. Si tu veux toujours manger le même gâteau, tu utilises toujours les mêmes ingrédients.
Il paraît que c'est super difficile en santé. Là, c'est un paquebot qui ne vire pas.
C'est un gros paquebot, mais en même temps, il faut briser l'inertie. Il faut commencer à faire bouger le paquebot. Puis si on se dit qu'il ne marche pas, puis qu'on reste dans l'inaction ou dans le statu quo, ben il n'y a rien qui va se faire. Donc, nous autres, notre posture, ça a été de, un, atterrir. Il fallait faire atterrir la réforme. Puis on est dans un réseau dans lequel il a subi des réformes aussi successives. Rappelez-vous les anciennes appellations, des fois qui apparaissent encore quand on va à l'hôpital. Moi, je suis un gars de Québec, là, quand on va à Saint-François-d'Assise ou à l'hôpital Laval, qui est l'Institut de cardio maintenant, là, des fois, on voit régie, agence, tout ça. Les gens ont un peu perdu le compte au fil du temps. Là. Donc, ça, on avait ça à atterrir. Puis, il fallait travailler sur des résultats. Puis, je me permets de te tutoyer.
Ouais,
je t'en donne trois. En chirurgie, par exemple, les listes d'attente, on le sait, ça traîne depuis longtemps. Dans la première année, là, on a réussi à avoir 55% moins de patients qui sont sur la liste d'attente de plus d'un an. Donc, ça faisait plus d'un an qu'ils attendaient leur appel ou leur courriel, ou peut-être pas courriel, des fois c'est un fax, là, je ne vais pas faire de mauvaises
ouais,
blagues.
C'est ça.
Là, on les
c'est
a
ça.
Contactés ou
les a, en
ils
fait,
sont
ils
passés
été, Ils ont passé, ils ont été opérés, donc les délais ont baissé de façon substantielle. En protection de la jeunesse.
Mais c'est pas des morts, là. Parce
non, non, non.
Entendu,
non, non. Non, c'est pas juste un ménage de fichiers Excel, là. Je te rassure, là. C'est des gens qui ont eu un appel, qui ont été opérés, leur situation était okay. réglée. Après ça, protection de la jeunesse, ben les délais d'évaluation, tu sais, il y a eu toutes sortes de cas dans les dernières années qui, malheureusement, tristes, là. On pense notamment à la fillette de Granby, tout ça. Donc, il y a eu une baisse substantielle des délais d'évaluation initiaux, là. La première rencontre, qui est souvent celle qui déclenche. Le reste de l'opération. Ça, c'est la première fois, c'est le plus bas, en fait, qu'on a depuis des 5 dernières années. Donc, quand même, il y a un travail important qui a été fait là.
Est-ce que le reste suit quand on rencontre, mettons, cet enfant-là, quoi que ce soit? Est-ce qu'on a assez de main-d'œuvre pour la suite des
oui.
choses? Pour
oui, okay. jusqu'à présent, c'est les échos qu'on a. C'est certain que, est-ce que tout est parfait? C'est pas moi qui va vous dire ça aujourd'hui. Là, on n'a pas de baguette magique, ça va prendre du temps. Ça, c'est deux cas, mais il y a aussi en santé mentale, c'est un sujet évidemment qui touche tout le monde. On a tous quelqu'un dans notre entourage, dépression, anxiété, même chez les enfants plus jeunes. Il y a presque 62 % des patients qui ont été vus dans les délais requis, comparativement à 55,1 l'année précédente. Donc, l'aiguille bouge. C'est pas...
Il y a une amélioration, oui. mais il y a encore énormément
de travail. Il y a énormément
de travail
à faire, mais c'est justement, comme je disais, il faut briser l'inertie.
J'ai accroché sur la baisse des délais d'attente sur les listes oui. d'attente de chirurgie. Comment on réalise ça? Il était où le problème? C'est quoi nos leviers d'action? Parce que des fois, on est un peu découragé, là, pour être honnête. On oui. a l'impression qu'il n'y a rien qui peut changer. Comment vous avez fait?
Oui, puis c'est facile de tomber dans le cynisme, là, mais une des choses que Santé Québec a amené, là, c'est arrêter de voir 30 réseaux dans un. Santé Québec, c'est pas une nouvelle structure. On a enlevé 30 structures, en fait. On a enlevé les structures d'établissement. Donc, les gens travaillent ensemble. Donc, par exemple, là, puis je donne un exemple un peu fictif, mais pour que les auditeurs comprennent bien, s'il y a une façon de procéder, de gérer le bloc opératoire qui fonctionne super bien, mettons, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avant, là, ça se vivait en vase clos. Donc, ça réussissait, puis bon, on travaillait ça, puis bon, les gens probablement localement étaient contents. Mais là, maintenant, là, en travaillant ensemble, en ayant des équipes qui se coordonnent, qui collaborent, bien, ça permet de prendre une bonne pratique qui fonctionne pour Pitou, puis de l'amener chez Minou. C'est aussi clair que ça. Puis, donc, pour les chirurgies, pour les opérations, c'est un peu le travail qui est fait. Évidemment, je ne suis pas un expert clinique, fait que je ne peux pas vous dire exactement ce qui a été fait de façon très précise. Mais en gros, là, pour la compréhension de vos auditeurs, c'est le genre de travail de collaboration, de partage d'informations, de bonnes pratiques qui nous permet d'avancer puis de faire des gains pour la population.
Pour rappel, on parle avec Yann Langlais-Plante, directeur général Relations médias gouvernementales de Santé Québec. Yann, question d'un auditeur, Pierre-Luc, qui dit « Lorsqu'on crée souvent une méga-structure comme ça, on devient loin du terrain et on ne prend pas nécessairement les décisions que le terrain veut. Comment vous faites pour rester connecté au terrain avec 30 institutions différentes? »
C'est super important. Puis c'est vrai que ça peut donner l'impression qu'on se déconnecte, là, qu'on est dans un bureau à Montréal ou à Québec, là, puis on prend une décision en haut de notre tour. C'est pas le cas. Je pense à ma collègue vice-présidente Maryse Poupard qui s'occupe des opérations, qui est en lien quotidien avec les PDG. Les PDG, là, maintenant, c'est comme un grand conseil d'administration. Chacun gère, parce qu'on ne pourrait pas avoir une personne mm-hmm. qui gère l'ensemble. Là. Je vous disais, c'est 325 000 employés. C'est la plus grosse société d'État au Canada. Là. Donc, chacun gère une portion de ce réseau-là, mais il y a une coordination qui est faite, puis on est sous le terrain. Par exemple, dernièrement, on a fait une tournée. Mme Biron était ici à Québec avec des VP. On vient voir ce qui se passe sur le terrain. Toutes les équipes de Santé Québec sont invitées à aller discuter avec leurs collègues qui sont sur le terrain. Aux communications, c'est la même chose. Là. Au-delà des lignes de presse qu'on peut produire dans notre bureau beige à Montréal ou à Québec, ben, il faut aller voir sur le terrain, comprendre ce que les gens vivent, les difficultés, les réalités. Puis ça nous rend connectés. Puis dans le modèle, c'est pas un top-down, si vous me permettez l'expression. La gestion de proximité, la gestion qui est faite par les PDG localement demeure super importante. Ils restent en contact avec leur réseau, avec les gens, les fameuses parties prenantes.
Qu'est-ce que vous avez appris? Nomme-moi un exemple que vous avez appris qui vient du terrain. Je sais que vous avez dit, incrime, on pensait pas que ça fonctionnait de même, on va le faire comme ça.
Bien, il y a des différents exemples, mais je vous donne un cas qui a fait manchette un peu dans les dernières semaines, derniers mois, mais les petites urgences au Bas-Saint-Laurent. Bon, rapidement, là, pour résumer, deux petites urgences auxquelles sont aux prises avec des bris de service importants, on n'est pas capable de trouver une façon de procéder. Donc, l'établissement, on a eu des contacts entre nos équipes, entre le siège social puis l'établissement. On a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Là, il faut revoir l'offre de service. Mais évidemment, c'est sûr que quand on touche aux urgences, ça devient sensible, la population réagit. Mais en travail de collaboration avec les équipes du siège social, avec l'établissement, on établit une stratégie. On a travaillé sur différentes choses. Ça ne s'est pas conclu comme on le souhaitait, mais quand même, il y a du travail qui a été fait de collaboration. Puis ça, avant, ça n'aurait pas été possible. T'sais, le PDG local, il aurait été prêt avec son problème, puis le ministère serait arrivé pour imposer une décision probablement d'en haut. On n'est pas dans ce mode-là. On travaille ensemble.
Les gens qui sont assez sceptiques et puis qui nous rapportent des trucs des fois
je
sur le
terrain.
Pas,
non?
Ils ont peur qu'il y ait trop de gestionnaires, tu sais, pour d'employés. C'est tout le temps ça qui revient.
Oui.
Et ils n'ont pas l'impression que de cette manière-là, ça a été réglé ou c'est ça qui a été revu aussi. C'est une fausse perception. Les gens sont vraiment sceptiques.
C'est une fausse perception, mais en même temps, je comprends cette perception-là. Tu sais, on compare souvent le système de santé, le réseau, à un mammouth, là. Puis c'est un gros mammouth laineux, là, tu sais, puis ça, on l'entend souvent. Mais si on regarde, là, justement, au niveau des cadres, dans l'ensemble du réseau, là, puis là, j'ai des données fraîches de fin février, là, on est, puis là, ça va paraître beaucoup, là, mais rappelez-vous, c'est 325 000 employés. On a à peu près, un petit peu plus que 12 000 gestionnaires pour 325 000 employés. Donc, ça donne un cadre à peu près pour 26 employés. Si on prend une business...
C'est mieux qu'au RTC à Québec. Félicitations.
Ben, je ne savais pas. C'est ça, vous pourrez poser la question à M. Girard.
C'est un cadre.
Collez-vous pas trop sur le RTC.
Non, ben, c'est un cadre pour à peu près 5 employés. Là, bon. On va dépenser beaucoup de transgestion.
Je peux prendre quand même la 801 pour tourner au bureau tantôt.
Vous pouvez prendre quand même la 801. Les chauffeurs sont très courtois.
Si vous aimez vous faire violence. Mais oui, les chauffeurs sont courtois.
C'est bon, mais juste pour finir mon exemple. En fait, c'est ça. On est à peu près à 12 000 gestionnaires sur 327 000 employés. Si on prend Hydro-Québec, par exemple, on est à un cadre pour 10 employés, nous, on est à un cadre pour 26. Donc, on est à 3,8% de l'ensemble du personnel là, qui
3,8%
est un cadre. Ouais, de 327 000. Donc, ça donne à peu près 12 000, même pour être plus précis, 12 510.
Tantôt, Yann, tu as parlé de fax, alors tu me tends une pêche.
Oui.
Parce qu'on nous avait
promis
la fin...
J'ai un peu tiré dans ma chaloupe en parlant de
et
ça.
Et voilà, donc tu m'as donné une idée. Non, mais j'avais de toute façon déjà l'intention de te poser la question. Parce qu'on nous avait promis la fin du fax dans le réseau de la santé. Monsieur Dubé, qui a tendance à monter les attentes par moment. C'en est où, là, la fin du fax? Parce que les projets numériques, de transformation numérique dans le réseau de la santé semblent un peu sur pause, un peu sur la glace. Peux-tu nous faire un peu un update?
C'est ça. C'est moi-même qui ai mis le fax, là. Fait que, écoute, je vais quand même essayer...
Pas le choix de répondre.
J'ai pas le choix de répondre. Mais ce que je peux te dire là-dessus, Antonine, là, c'est que... Tu sais, la transformation numérique, là, on l'a vu, là, vous avez nommé une autre société d'État tantôt qui a fait face à des enjeux importants. Là. C'est pas de la théorie, là. C'est compliqué faire une transformation numérique. Puis plus le déficit numérique est important, plus c'est compliqué. Parce que là, les systèmes ne fonctionnent plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Apollo 13, là, on essaie de rentrer un carré dans le cercle pour amener la navette. Là. C'est un peu ça. Là. Mais je vous donne à vous un exemple, à vos auditeurs, un exemple très précis d'un projet là, qui est un autre acronyme, là, je ne vais pas en rajouter ça à la liste, mais qui est le CILP. Concrètement, là, c'est un outil qui permet de transmettre les tests de laboratoire ou des tests d'imagerie, par exemple, directement à son médecin, donc de transférer l'information. On est en train de déployer ce projet-là. Il y a autour de 99,8% des tests qui ont été réussis dans ce transfert d'informations-là. Les médias ont parlé évidemment du 1.2, que, même
qui
du 0.2, du 0.2 qui n'a
pas
fonctionné. Puis bon, c'est normal, c'est la game. Sauf que cet outil-là nous a permis jusqu'à maintenant d'économiser 28 millions de fax envoyés.
Ah, quand même.
Donc
ça, c'est du papier.
Oui, puis c'est
pas des rouleaux. C'est des rouleaux d'imprimante, pas d'imprimante, mais des rouleaux de fax.
Oui, puis c'est s'assurer d'une efficacité aussi.
C'est s'assurer d'une efficacité aussi. Est-ce que tout est parfait? Est-ce que tout fonctionne comme on voudrait? On l'a vu cette semaine avec les médecins spécialistes, avec le CRDS. On a fait des sorties là-dessus. On ne dit pas que l'outil est parfait puis que ça fonctionne bien, mais il faut partir de quelque part. Puis on fait face à ce défi-là. On prend les outils tels qu'ils sont, on essaie de les améliorer. Ça va prendre des sous, ça va prendre du temps, ça va prendre des ressources, mais on n'a pas le choix de faire ça. Là.
En terminant, Yann, à quand la paix avec les médecins spécialistes?
La négociation, c'est dans la cour du gouvernement. On parlait des rôles tantôt, donc la négociation...
Mais là, ils ont mis en demeure.
Oui, mais on était, je pense, assez ferme dans notre prise de parole publique en réaction à la mise à demeure, qui est de dire quand il est question des patients, quand il est question d'inquiétude, d'anxiété même, quelqu'un qui attend pour un rendez-vous avec un spécialiste. Là,
l'ai vécu pendant 18 mois avec ma mère qui attendait pour s'ange.
Ben c'est ça. Moi, je l'ai vécu aussi avec des gens de ma famille, probablement Antonine, Pascal aussi. Donc, ça, c'est primordial. Puis notre mission, là, c'est de donner des soins et des services à la population. Là, il y avait des questions, il y avait des enjeux pour les patients. On avait des échos du terrain. C'était important pour nous de sortir, de dire, OK, on est au rendez-vous, sans faire de mauvais jeu de mots. On est là pour tenter de trouver des voies de passage à travers tout ça. Mais la négo, on laisse vraiment ça au gouvernement. Je n'ai pas l'intention d'aller plus loin là-dessus.
Mais vous faites juste subir l'entente qui est négociée par le Trésor. C'est pas un peu illogique que vous ne soyez pas impliqué dans la négo?
Bien, c'est les T'sais, je reviens au rôle. Donc, nous, par exemple, si le gouvernement, dernièrement, la ministre Bélanger a sorti une politique sur le soutien à domicile, par exemple. Donc, à partir du moment que le gouvernement identifie les orientations, nous, on prend le document puis on voit comment...
C'est les opérations.
Les opérations, on va gérer ça avec les ressources, avec les problématiques régionales, avec la démographie, avec tous les indicateurs qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est notre bout de l'équation. Donc, c'est la même chose pour la négociation. La négociation, c'est vraiment dans la cour du gouvernement. Puis nous, on est en attente, mais il n'est pas question, dans ce cas-là, de rester silencieux quand il y a des impacts sur la population puis que ça peut mettre à risque nos opérations.
Je sais qu'on est à la fin de l'entrevue, mais pour les auditeurs, je vais vous dire quelque chose.
Oui.
Il y en a qui soulignent à quel point c'est le fun d'avoir un peu de transparence puis de la réponse aux questions. Je sais que ça fait pas longtemps Santé Québec. Je sais pas ça fait combien de temps vous êtes porte-parole pour, mais sachez qu'il faudrait continuer en ce sens-là parce que c'est avec ces portes de verre-là qui seront défoncées qu'on sera capable d'aller atteindre la population puis de recevoir la critique aussi. Ça a vraiment fait du bien à certains auditeurs, malgré qu'ils restent sceptiques, puis on peut les comprendre.
C'est correct. On va essayer de démonter ça. Puis ça, c'est un plaisir d'être à votre micro. Ça va me faire plaisir de revenir si vous voulez me réinviter.
La porte est toujours ouverte. Yann Langlais-Plante, directeur général relations médias et gouvernementales pour Santé Québec. Merci d'avoir démystifié ce que Santé Québec fait. Après la courte pause... Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale, sera avec nous. On va revenir entre autres sur cette chicane entre Bruno Marchand et Sylvain Junot sur le tramway et de l'insatisfaction de Bruno Marchand par rapport au dernier budget provincial sur les infrastructures.
Jusqu'à 4... du Québec a mis à votre disposition plusieurs mesures pour remettre de l'argent dans votre portefeuille. Tel qu'un montant de 300 $ tous les 24 mois pour les lunettes ou les verres de contact des jeunes de moins de 18 ans, ou encore une aide financière accrue aux aînés. Découvrez toutes les mesures mises à votre disposition sur québec.ca/portefeuille-québécois. Un message du gouvernement du Québec.
Tu penses t'acheter une voiture prochainement? T'en veux pas une neuve, mais une comme neuve? Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Va voir nos comme neuves au commeneuve.com.
Les jours gros rabais chez Mondou, c'est maintenant. Profitez de 15% de rabais sur les grands formats de nourriture sèche Royal Canin pour chat et pour un temps limité, la deuxième nourriture humide Royal Canin pour chat est gratuite. Jusqu'au 22 mars, en magasin et sur mondou.com.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
L'Open Mic.
Hey, salut, c'est Audrey. Je t'invite à venir écouter dès 11h en semaine l'Open Mic, un segment où j'offre le micro à des gens qui ont des histoires marquantes, qui nous font vivre leur quotidien. On jase de plein d'affaires humaines, on met de côté l'actualité pour une demi-heure. Joins-toi à nous, manque pas ça.
L'Open Mic. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Depuis 100 ans, Junot et Frères est votre expert en peinture et décoration. Jusqu'au 23 mars, 50% de rabais sur le deuxième galon Régal Select et peinture à plafond Benjamin Moore. Junot et Frères sur Pierre-Bertrand et nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
Voici le portrait. Tu veux t'acheter une voiture, t'en veux pas une neuve et tu veux faire ça simple. Ça l'est avec Kia Beauport. On a aussi de l'occasion. On fait partie du portrait. Rejoins la famille. Magasine au kiabeauport.com.
C'est le Salon du vélo de Québec avec un nombre record d'exposants. Voyez les nouveautés en vélo de route, gravel, montagne, électrique. Essayez même votre prochain bijou sur notre piste d'essai intérieure. Voyages, conférences, ateliers mécaniques, compétitions de BMX sur notre pump track, tout y est. Participez au concours officiel Voyage Trédit Tour et courez la chance de gagner 5000 $ en crédit applicable sur un voyage en vélo électrique. Le Salon du vélo du 20 au 22 mars au Centre de foire d'Expo-Cité. Info et billets sur salonduvélo.com.
Propriétaire d'une maison avec une fosse septique? Faites confiance à Sanivac. Notre équipe vide et entretient les fosses septiques dans ta région avec un service fiable, rapide et professionnel depuis 1961. Sanivac s'occupe de tout, ta vidange et même le rappel pour votre prochain entretien dans 2 ans. Service d'urgence 24/7 et réservation dans la même semaine. Pour un service simple, propre et efficace, choisis Sanivac. Une entreprise familiale d'ici, au service de vos fosses septiques depuis 65 ans. Choisis Sanivac.
C'est le Salon La Tulipe et pour l'occasion, on paie l'équivalent des 2 taxes en ligne et en magasin jusqu'au 29 mars. Et à la succursale de Québec, on fait ça en grand. Venez rencontrer Stéphane Monnette, Patrick Campo, José Boily, le photographe Jean-Simon Bégin et plusieurs autres représentants de vos compagnies préférées. Plus de 15 000 $ en prix de présence et plus de 125 000 $ de cadeaux remis avec achat. Bière, dégustation, nouveautés plein air, ça va brasser chez La Tulipe. Tous les détails de la programmation au latulipe.com.
La nostalgie frappe la Belle et la Bœuf. Tu t'ennuies du burger nucléaire, du Goldorak ou de la poutine syndicale? C'est ta chance. Nos plats et cocktails classiques des années 2010 font un retour pour tout le mois de mars. On vous attend au La Belle et la Bœuf, place Sainte-Foy.
Une propriété, Leclerc Communication.
À Boulevard 102.1. Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1.
Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Midi 58, émission On en jase sur Boulevard 102.1 à la météo 0 degré avec faible neige intermittente pour aujourd'hui. Pas grand-chose qui tombe présentement, Pascal CV. Hein?
Non, ça semble assez tranquille.
C'est bien tranquille. Des vents de 20 km/h, donc vraiment très belle journée. Moins 1 avec de la neige pour demain, vendredi. Bon, on parle de très faible accumulation. Pour samedi, c'est 0 degré nuageux et 1 degré de la neige pour dimanche. Fait qu'on verra pas même le soleil dans les 4 prochains jours, Pascal CV. Ayons-le dans notre cœur. Oh. Je me sens poète des fois. Il y en a qui se sentent moins poètes et qui ont trouvé des nouvelles façons de faire de l'argent avec le crime, Pascal, des trains rempli de dope.
Ouais, ben on passe d'une neige à une autre, hein, parce qu'il y a des trains qui transportent des centaines de kilos de cocaïne et de méthamphétamine qui sont cachés dans des voitures neuves qui entrent au Québec plusieurs fois par mois. C'est ce qu'on a appris du côté du bureau d'enquête de Québécois. Dans le fond, ce qu'on lit, c'est qu'il y a des cartels mexicains qui ont changé leur méthode d'exportation. Heureusement, on était capable d'en trouver une. Et il y a un resserrement de la surveillance à la frontière canadienne parce que le train semble maintenant la solution miracle. On met tout ça dans les trains et on envoie ça en seulement 2 semaines du côté de Québec.
Complètement fou.
C'est complètement fou. Un avion qui a été escorté à Montréal, il y a 2 CF-18, en fait, qui ont été déployés à cause d'une fraude de points aéroplan. Là, tu dis, voyons, une fraude à l'identité. Puis là, on est en train d'avoir un déploiement policier.
C'est quoi, on a envoyé des F-18 juste parce que quelqu'un avait volé des points aéroplan?
Oui, mais par une fraude à l'identité, ça veut dire, moi, je prends tes infos, Jeff, puis là, je veux te voler tes points aéroplan.
Oui, mais là, c'est rien que des aéroplans. À un moment donné, le militaire n'a pas embarqué là-dedans. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, on s'entend aussi que je te prendrai pas juste toi, mais mais c'est à l'origine, effectivement, d'un déploiement policier. C'était hier à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et là, on a forcé 2 avions de chasse à escorter l'appareil jusqu'à la piste d'atterrissage. Il y a un protocole de sécurité qui a embarqué. En réalité, c'est que son identité avait été usurpée par un autre passager. Et lui était à bord d'un vol en provenance de Bruxelles, puis se dirigeait vers Montréal. Selon les sources, le passager de 27 ans avait fraudé l'identité d'une autre personne dans le but de voler ses points, comme je vous disais. Il s'agit d'une fraude de plus en plus populaire au Canada. On cible toutes les plateformes qui offrent des points de fidélisation pour les voyageurs. Alors, situation assez importante pour déclencher une procédure de sécurité. Et voilà que ça a surpris un peu tout le monde. Je dois parler du prochain chef de la CAQ et du premier ministre du Québec, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drinville. L'un ou l'autre aura droit à une réserve d'1,3 milliard de dollars, dont 250 millions de dollars cette année. Celui ou celle qui sera élu va pouvoir aussi avoir la possibilité de puiser dans la provision pour éventualité. Normalement, ça, c'est pour les imprévus. Et c'est ce que choisit le ministre des Finances, Éric Girard. Il a expliqué qu'il a réservé ces fonds-là pour leur permettre, suite à leur assermentation, d'avoir un peu de possibilité de jouer avec les sommes et d'y aller à leur main, tiens, disons-le comme ça. Et le maire de Québec, lui, s'est opposé clairement là, au budget du ministre Girard. Il est mécontent, surtout en termes d'infrastructure. Il dit qu'ils avaient des attentes très limitées pour le budget, qu'il espérait tout de même un signal clair pour le logement, l'itinérance et le financement des infrastructures. Il est extrêmement déçu.
Et justement, pour en parler avec nous, on va immédiatement rejoindre notre chroniqueuse politique et ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger, Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Alicia, est-ce que le maire Marchand a raison de se plaindre des gouvernements? Moi, je t'explique. En premier lieu, j'ai pour mon dire, arrête de quêter Bruno Marchand puis occupe toutes tes infrastructures au lieu de plein d'autres projets. Mais en même temps, je me dis, mon Dieu, il faut qu'il investisse 100 millions dans Saint-Roch pour l'itinérance quand ça y appartient pas.
Ben c'est ça, puis c'est drôle, j'en parle aujourd'hui, je suis à Nicolette dans le congrès, finalement, le rassemblement de la nouvelle vague municipale, où je vais parler tantôt du transformation, du rôle des villes. Les villes, maintenant, j'en ai déjà parlé avec toi, sont rendues responsables de tout ce qui se passe sur leur territoire, mais n'ont pas de capacité financière, finalement, pour absorber tout ça. Fait que je le comprends, puis Bruno Marchand, il n'est pas le seul maire à demander davantage de financement au gouvernement. Maintenant, ben, je sais pas moi si finalement, est-ce que c'est une bonne réaction de dire bon, on est mécontent. Je pense qu'il y a plusieurs maires qui le sont. Il y a peut-être des petits gains ici et là, mais clairement, c'est pas assez là, pour faire face aux défis qui s'en viennent en infrastructure, en itinérance, en logement. On dirait que c'est un peu aussi un échec de la part de ces grands-mères-là qui se sont exprimées dans les dernières semaines pour avoir une part de gâteau un petit peu plus grande pour faire face à ça. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire valoir leurs points? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi finalement à prendre assez de place dans l'espace public que ce soit intéressant pour le ministre Girard de mettre ça dans son budget? Puis d'un autre côté, ben il y a le contexte. Hein, c'est un budget pour les prochains mois. On s'en va en campagne électorale. On va avoir un nouveau premier ministre. Ce budget-là, il allait être beige. Là, il allait être plate. C'était clair. Cette marge de manœuvre-là, c'était pas un budget pour être créatif puis pour mettre le gouvernement en valeur, alors qu'il va y avoir un nouveau chef, un nouveau premier ministre, une nouvelle première ministre, puis une élection à l'automne.
Alicia, est-ce que, puis je reviens sur ce que tu as dit avec, c'est un peu un échec des maires des grandes villes de ne pas avoir réussi à convaincre le gouvernement. Est-ce que les maires des grandes villes rêvent trop développement puis gèrent pas assez ce qu'il y a à l'heure actuelle? Donc, serais-tu dû pour un 4-5 ans où on va réparer puis s'assurer que nos services de base aillent bien, puis après ça, on se remettra à rêver?
Bien, oui et non, parce qu'en même temps, c'est un peu ça qui est. C'est un peu là qu'on est rendu. Tu sais, les investissements, les grands investissements, les grands projets de société, la culture, le tourisme, le patrimoine, tout ça, ça a quand même pris une place beaucoup moins grande dans les dernières années parce que les villes, il faut qu'ils s'occupent des infrastructures souterraines, il faut qu'ils s'occupent de loger leur monde, il faut qu'ils s'occupent de la hausse des prix du déneigement. Puis, tu sais, il y a des contextes, le contexte géopolitique dans lequel on se trouve en ce moment avec l'Iran, c'est sûr et certain que s'il y a plusieurs opérations de déneigement dans les prochaines semaines, avec le prix de l'essence qui a monté, ça va avoir un impact là, en termes de plusieurs, peut-être même en termes de quelques millions de dollars là, comme impact sur l'ensemble des opérations d'une grande ville comme Québec ou comme Montréal. Fait que c'est je comprends ton point, puis en même temps, j'ai l'impression que les villes, c'est ça qu'ils font déjà, juste s'occuper de leurs affaires. Je vous rappelle Catherine Fournier qui parlait de son feu de circulation à 1 million de dollars. On est rendu là en ce moment dans les coûts. On est rendu à un point où tout est à refaire. Fait que j'ai l'impression que les villes sont quand même concentrées sur l'essentiel. Maintenant, quand on parle d'itinérance, ben ça, j'ai l'impression que c'est un enjeu. Ça se passe sur le territoire des villes. L'impact se vit par les villes. Fait que c'est elles qui doivent s'occuper de ça. Puis malheureusement, le gouvernement du Québec n'est pas proactif à cet égard-là. Il répond pas aux attentes des maires pour investir les montants nécessaires pour cet enjeu-là.
Mais on dirait que tout le monde manque d'argent. Donc, il y a des choix à faire. Puis en même temps, Alicia, on va te poser la question parce que tu as été quand même longtemps en train de gérer des choses dans une ville, soit celle de Québec. Est-ce qu'on ne devrait pas redéfinir les tâches de chacun des paliers politiques, municipal, provincial, fédéral, avec tout ce qui a changé, le temps qui a passé? Ça se peut-tu que ce soit ça le problème aussi? C'est pour ça qu'on se renvoie tout le temps la balle?
C'est clair, il faut absolument redéfinir les rôles, surtout le rôle des municipalités, parce que dans la réalité, ça a explosé. Le nombre de responsabilités des villes ont explosé. Puis en même temps, bien, leur rôle, comme c'est écrit dans la loi, celui-là, il n'a pas changé. Il y a eu des petits gains, là, tu sais, le statut de capitale nationale pour Québec, etc. Bon, des gains en termes de points de TVQ, puis de retour auprès des municipalités pour le financement, mais c'est très marginal, puis ça limite les villes dans leur capacité. Ils sont très contraintes là-dedans. Moi, je veux juste rappeler que dans les choix à faire, quand on parle d'argent, on parle du même argent. On parle de l'argent des villes, de l'argent des gouvernements. La différence entre les villes puis le gouvernement, c'est que le gouvernement, lui, peut faire des déficits. Puis là, on apprend aujourd'hui ou hier, avec le budget, là, hier, que le gouvernement prévoit un déficit moins grand que prévu. Les villes, de leur côté, eux autres, ils n'ont pas le droit de faire de déficit. Fait que s'il y a une année, on jugerait qu'il faudrait investir davantage d'argent, bien, c'est pas possible. L'argent rentre via les taxes foncières, l'argent sort pour investir, puis à la fin de l'année, les villes sont légalement obligées d'arriver au moins à zéro, sinon avec un surplus.
Pour rappel, on parle avec Alicia Despins, chroniqueuse politique municipale à Boulevard 102.1, l'émission On en jase, et ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger. Alicia, je te fais écouter un extrait de Sylvain Junot en entrevue lundi avec nous concernant le projet de tramway. C'est la chicane de la semaine. C'est Sylvain Junot, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Il dit qu'il ne chicane pas, lui, M. Junot.
Oui, il n'est pas en guerre contre Bruno Marchand.
Il est pas en chicane.
Mais écoute, je te laisse écouter l'extrait, Alicia, puis on se reparle, voir s'il est en guerre avec notre maire à Québec.
Maintenant qu'on a dit ça, bien, tout grand projet de cette envergure, on parle quand même de plusieurs milliards, là, doit suivre les règles de l'art. Dans les règles de l'art, bien, les gestes irréversibles, ben on les pose pas au début, on les pose quand on est sûr d'avoir tout bien attaché. Et dans ce cas-ci, ben le financement, à moins que quelqu'un me sorte des documents, là, j'ai pas d'assurance de grand-chose. On a une espèce d'esquisse, mais un montant de 7, quelques milliards qui date d'un estimé qui date d'il y a 2 ans, un gouvernement fédéral qui parlait de 1,4 milliard, qui représente donc pas 40%, pas d'engagement à aller plus haut, mais des espèces de peut-être que.
Éric Girard nous l'a confirmé en entrevue en début d'émission. C'est vrai que le financement du fédéral n'est pas confirmé. C'est vrai que le budget de 7,6 milliards, c'est pas confirmé. Ça va être juste confirmé une fois que CDPQ Infra va avoir déposé le plan de travail complet. Devant ces deux faits, Alicia, est-ce que Sylvain Junot a raison de dire « Coupez donc pas les arbres tout de suite au cas où que ça n'arrive pas, le tramway? »
Ben, puis à ça, Bruno Marchand répond, ben il faut qu'on arrête de tourner en rond puis de tout le temps prendre du retard dans ce projet-là qui a déjà énormément de retard. Mais c'est vrai que c'est un message qui est contradictoire, là. Donc, le gouvernement du Québec qui considère actuellement que le tramway est plutôt en phase de planification, en même temps qui continue de verser quand même des sommes. Moi, ce qui m'a fasciné dans tout ça, c'est la réponse de Bruno Marchand. Puis là, je trouve que c'est un peu tard quand même pour M. Junot là, de venir s'opposer à la Coupe d'Or, de venir s'opposer un peu au projet de tramway. On dirait que dans le processus, là, il est peut-être tard un peu pour
ouais,
ça.
Oui, mais là, il va y avoir une grande marche le 28 mars pour sauver les arbres organisés par les anti-tramway. Fait qu'on en est là.
Ouais. On en est là. Mais Bruno Marchand répond, il dit, il traite finalement Sylvain Junot d'apôtre de l'inertie. Moi, je trouve que c'est une occasion manquée pour Bruno Marchand de profiter de l'occasion pour continuer de communiquer. On le dit, on continue de le dire, il faut communiquer pourquoi c'est important, pourquoi on est rendu à ce moment-ci, de s'élever finalement dans tout ça. Finalement, j'ai l'impression qu'il est tombé dans le piège de contre-attaquer. Puis en répliquant de cette façon-là, Bruno Marchand met l'attention finalement sur ce conflit-là qui est de toute évidence très personnel entre les deux maires. C'est une distraction là, dans tout le reste.
Ils disent que non.
Bruno Marchand, ouais, c'est ça. Mais Bruno Marchand, en ce moment, il est en Alberta pour continuer de vendre le projet puis montrer que c'est possible, etc. Puis, à quelques milliers de kilomètres de là, ben, il se chicane avec son collègue sur la Coupe d'Arbre.
Oh, dans le public, dans le public, par lettre qu'il envoie aux médias. Tu sais, puis en plus, il est à plusieurs kilomètres. Quand samedi, il y aura congestion parce qu'on aura de nouvelles signalisations dans la ville de Québec. Alicia, je suis désolée de te poser la question. Sous l'air Régis Labombe, est-ce que déjà le projet de tramway, c'était le fameux projet de la napkin, puis on voit encore que c'est pas ficelé comme projet?
Non, pas du tout. Ce projet-là, il est ficelé. Toutes les études sont là, le démontrent, mais le contexte il est très difficile. Il faut des fins stratèges, des fins politiciens pour être capable là, de mieux communiquer le projet puis de montrer que malgré tout, tous les signaux envoyés par les collègues, les maires de Saint-Augustin, par exemple, puis le gouvernement du Québec, on garde le cap puis que ça avance. Là, des distractions comme celle-là, je ne sais pas combien on peut en avoir à Québec avant que les gens commencent à reperdre espoir en projet. Là. Donc, c'est pas évident. Je trouve que c'est contre-productif. Puis je pense que finalement, les citoyens, ils n'aiment pas beaucoup ça. Là, je ne sais pas si j'ai encore 30 secondes, mais cette mission-là du maire de Québec en Alberta, elle est importante. Elle a des objectifs.
Hey, mais moi, je veux te poser la question, par exemple, le timing.
Le timing, j'y allais exactement.
Le timing, parce que là, les travaux commencent samedi, les responsables des communications sont en Alberta, le budget provincial, le maire est en Alberta. En tout cas...
Tu m'enlèves les mots de la bouche, le timing, je ne sais pas, cette semaine-là, on dirait qu'elle n'aurait pas pu être mal choisie. L'annonce lundi des enjeux, tu sais, des changements de la circulation pour les travaux du tramway, mardi l'annonce de la coupe d'arbre. Le budget provincial.
Ben c'est ça. Moi, puis là, on a parlé avec un restaurateur sur René Lévesque hier qui dit ben, je sais pas, là, quand tu m'as appelé pour me dire ouais, apparemment que le RTC est détourné, je rappelle la ville. T'sais. Mais là, ils m'ont dit René Lévesque sera pas fermé. Fait que là, on sait pas, il va-tu être fermé? Seras-tu pas fermé?
Hey,
qu'est-ce qui va arriver?
Jeudi,
on est jeudi.
Vendredi, samedi. C'est samedi que ça commence.
Ah oui. Fait que tu sais, ça fait pas de sens là, comme gestion de projet, là.
Puis on a déjà parlé, mais tout ça peut pas se faire après les faits. Monsieur Marchand ne peut pas revenir, puis après ça, essayer de remettre la pâte à main dans le pot, puis dire, ben voici, je vous l'explique, ça va bien se passer. Un peu de prévisibilité, finalement, pour les citoyens et les commerçants. Il faut que ça se fasse avant tout ça. Donc, partir cette semaine, effectivement, c'est un drôle de moment.
Alicia Despins, toujours un bonheur de te parler une fois par semaine. Tu es notre chroniqueuse municipale en politique municipale et on t'apprécie beaucoup. Salut, bonne fin de journée.
À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Timing is everything.
Ouais, puis tu sais, je le sais. Je sais qu'elle dit que c'est ficelé, puis que c'est pas un projet de napkin. Colin, j'y crois pas encore.
Ouais,
puis
ben.
Puis honnêtement, Alicia a jamais la langue de bois. Elle nous répond toujours les bonnes affaires. Ben en fait, dans le sens, elle répond. C'est déjà bien parti.
En effet. Mais tu y crois pas parce que le bureau de projet a pas fait sa job. Ils ont jamais été capables de nous prouver que ce projet-là était bien en selle.
Il y a le contenu, puis il y a le contenant aussi. Si Jeff, je te parle de quelque chose, tu commences à te choquer. Au lieu de, quelque chose que
t'as
rien
raison
à te reprocher, mais tu réponds avec une certaine amertume, avec une certaine arrogance. Tu m'allumes des lumières, puis ça se peut que tu sois vraiment une bonne personne, puis tu ne l'as pas fait, mais si tu réagis de même, le contenant compte aussi.
Ben oui,
pas juste le contenu, puis Bruno Marchand, la façon dont il réagit. Je comprends qu'il est exaspéré, mais s'il n'y a rien à se reprocher, pourquoi il réagit comme ça?
Oui, puis c'est le projet de la chicane, c'est le projet de la chicane parce qu'il y a tellement eu... d'hésitation dans le dossier, de changement, de porteur de dossier, de changement à l'intérieur même du projet. On était à Charlebourg, on était à la Beauport, on revenait à Charlebourg. T'sais. Donc, à un moment donné, toutes ces tractations-là font en sorte que le monde ne croit pas.
Ben oui, puis il est où le pilote dans l'avion?
C'est ça, le monde.
C'est une expression que j'aime beaucoup.
Ben oui, mais le monde ne croit pas au sérieux de la démarche. Puis tu as raison quand tu parles de l'attitude du maire Marchand qui est toujours aigri avec le projet du tramway. Tu veux me vendre de quoi, là? Attends, mettons, tu veux me vendre un café, là? Hey, Jeff, prends mon café. Café de merde. Ben, je vais te dire, garde-le, ton café.
Ben oui, mais...
Mais si tu me dis, Jeff, gars, dans ta tasse de café que là, c'est le meilleur café au monde.
Je viens de moudre les grains.
Puis tu sais quoi? Je le sais.
Tu sais, le café du dimanche,
ben,
là, dans ta chambre,
exactement.
Là, en plein hiver avec une tempête, là.
Fait que là, tu vas l'acheter. C'est ça, le problème. C'est qu'on essaie de nous passer le tramway en étant fâché. Ça marche pas.
Je comprends pas, puis c'est ça le rôle d'un politicien. C'est bien plate, là.
Ben
il y a
oui.
toujours un côté positif à être politicien, mais il y en a aussi un négatif, puis c'est de répéter, puis de garder son calme.
Exactement, puis de garder le cap, et c'est ce qui n'a pas été fait dans ce dossier-là. Donc, ça va être à suivre. Tu sais, on fait juste regarder, là, on a mis notre chum Mathias sur le projet, là, parce que hier, Marc-Antoine Mounos,
oui.
de la Scala,
oui.
nous a dit,
hey,
savez-vous quoi? Moi, je me suis fait dire dans une réunion de commerçants que l'arrêt colline parlementaire, Elle sera pas là. Stéphane Lachance nous a dit la même chose en ondes à Marceau le matin.
Mais nous, on les a deux l'impression qu'il est encore là.
Mathias m'a montré le plan. Tantôt, il dit « Check, il est encore sur le plan, Jeff. » Donc là, il va faire des demandes d'accès à l'information. Imagine qu'on tombe là-dessus. Que finalement, pas là, l'arrêt. On va dire, gardez les mentors avec leur projet, fait que tu peux pas avoir d'adhésion.
Ou projet non ficelé, ou, tu sais...
Ben, exactement, projet napkin. Je reviens, ouais. T'as entièrement raison. Je reviens à ton... je reviens justement
à... cette image-là.
Ouais, c'est ça. À ton qualificatif, voici le mot que je cherchais. On va aller rejoindre quelqu'un qui est pas souvent fâché, mais qui nous fait réfléchir. Animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h. Et également, la fin de semaine de 8h à 10h en compagnie de Jacinthe-Ève Harel. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Je suis jamais fâché. C'est pas souvent, je suis jamais fâché.
C'est
non,
ça, hein?
Ça,
exactement.
Je crois pas, c'est louche.
J'aime ça. C'est le good vibes only. J'aime bien ça. Rémi, tu veux nous parler d'un événement que là, certaines personnes veulent annuler. Pourquoi?
Oui, bien, ça se passe le 26 mars. C'est organisé à l'Université Laval. Et c'est un événement dans lequel on organise un panel. Un panel qui est constitué par trois personnes que vous connaissez bien à Québec. Alex Boissonneau, député du Parti québécois dans Arthabasca. Benjamin Tremblay, qui est le créateur de la chaîne 7 jours sur Terre, qui est, je pense, ne pas me tromper en disant, la chaîne québécoise avec le plus d'abonnés. Peut-être pas loin de celle de Victoria Charlton, mais c'est un exploit que ce gars-là, de mon âge à peu près, ait réussi à faire ça. Et Étienne-Alexandre Beauregard, qui est... anciennement à la CAQ, désormais chercheur à l'Institut Cardus. Donc, c'est un panel.
Et juste pour dire, Étienne-Alexandre Beauregard, que vous entendez sur nos ondes à l'émission On en jase régulièrement. Et mardi prochain, il sera là pour nous parler du sous-financement des organismes communautaires, parce que ça va être la semaine. Le communautaire à bout, et il a fait une étude là-dessus.
Ouais, ah ben oui, c'est vrai qu'il vient souvent à votre émission. Et là, il y a les féministes en mouvement de l'Université Laval qui dénoncent la tenue de la conférence qui est organisé par le Parti québécois et de l'Université Laval, parce que là, il y a un comité du Parti québécois à l'Université Laval. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que ce sont des panélistes qui ont tenu des discours traditionnalistes. Traditionnalistes, imaginez-vous.
Okay.
Discriminatoires, haineux. Et là, on n'acceptera pas ça sur le campus. Moi, j'ai vu ça passer, puis je me suis dit, « Hey, on vit plus à cette époque-là. C'est terminé. Ça, c'est tellement 2019-2020, ça. Ouais. On est passé à autre chose, là.
Mais Pascal, maintenant, on est capable... Pascal, Étienne, Alexandre, il y a des propos haineux quand il vient à notre micro?
Non.
OK. Non, ça, j'ai posé la question à Pascal. C'est une femme.
T'as bien fait. Puis je sais que Pascal est membre de cette organisation-là.
Non, plus.
À partir des rumeurs. Non, mais discours haineux, ça, on a entendu ça souvent, puis on s'est finalement rendu compte que ça voulait dire, malheureusement, parce que ce mot-là a quand même un sens, haineux, mais souvent, ça veut juste dire « je suis pas d'accord avec quelqu'un », fait qu'on va dire que c'est un discours haineux, si on l'a vu à l'œuvre. Mais là, discours traditionnaliste, moi, je salue quand même l'audace de ces féministes en mouvement.
Ça sort de où, ce mot-là, Rémi? Explique-moi, là.
Ben, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a des gens qui sont parmi le panel qui sont un peu conservateurs, c'est-à-dire qu'ils le voient pas dans la modernité.
Attends, on va demander à Pascal. Pascal est une femme traditionnaliste. Pascal, tu utilises ça tous les jours?
Il y a du monde qui va y croire, hein? Vous savez, c'est quoi la radio, là?
Non, mais c'est incroyable, cette histoire-là. Et là, on nous invite donc à envoyer des courriels pour dénoncer. Et là, il y a comme 5 ou 6 adresses courriels différentes. On veut vraiment être sûr que ça se rende et que ça se signale. Et je vous disais donc, il y a quelques secondes, j'ai l'impression que ça, c'est du passé. Moi, je pensais qu'on était passé à autre chose. Je pensais qu'on était prêt à s'asseoir avec des gens, que des fois, on en donnait une à l'adversaire, entre guillemets. Bon, ben regarde, voici un lancement très à gauche, avec du monde très à gauche qui passe une soirée ensemble. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème? Voici un événement où il y a plus de gens qui sont marqués à droite, bah, c'est quoi le problème? Idéalement, on met toutes sortes de gens sur les panels, mais moi, pour avoir un podcast et une émission de radio et être marqué à droite, je peux vous dire une chose, c'est un défi de les avoir, souvent, les gens qui sont marqués à gauche. Donc, ça, les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là doivent le savoir. Des fois, quand vous avez un panel de gens à droite, pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « on va juste inviter du monde à droite », c'est parce qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui refusent la conversation, qui refusent de se mêler. Moi, on me répond des fois « ma gang ne sera pas d'accord ». Ma gang ne sera pas d'accord parce qu'il y a une pression sociale qui s'accentue lorsque vous traînez avec certaines personnes. Donc, c'est pas des accidents, là, les panels.
Ils ont peur de se faire étiqueter à droite au sein de leur propre groupe parce qu'ils participent à des panels où il y a une pluralité d'opinions ou ils veulent pas être vus en leur compagnie ou ils accusent qu'ils seront mal cités?
Ben, c'est toutes ces choses-là. Après, moi, ça n'engage que moi et mon expérience. Moi, pas dans vécu. Mon expérience, j'ai eu affaire avec des gens plus à gauche que je voulais inviter, avec qui je voulais discuter, et souvent on me disait je veux pas être vu. Moi, je t'aime bien, mais moi, je vais devoir m'expliquer. Bon, alors moi, j'ai jamais eu besoin de m'expliquer quand je me faisais inviter par des gens à gauche. Peut-être parce qu'il y a moins de gens qui estiment que je commets une faute grave lorsque je m'assois avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Mais revenons à ce panel-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction. Parce que si vous allez dans les commentaires, c'est la page des féministes en mouvement de l'Université Laval qui publie ça. Dans les commentaires, généralement, on devrait imaginer que c'est favorable au message parce que c'est sur une page avec des membres de la page. Oh boy! Allez faire un tour. Je ne sais pas s'il y a un commentaire positif et favorable à cette démarche de censure pour 10 commentaires de gens qui disent « ça va faire, là. On a déjà joué dans ce film-là, ça ne donne rien, il faut converser pour avancer et c'est surtout pas dangereux. »
Est-ce que ça leur cause problème? Est-ce que ça leur cause problème parce que c'est des hommes qui font le panel et qu'il n'y a aucune femme?
C'est pas ce qui semble être dénoncé, là, pour être tout à fait honnête.
Parce que ça,
après,
ça aurait pu être réfléchi, tu sais. Ça, admettons, tu veux pas mettre de l'huile sur le feu ou tu veux vraiment être inclusif ou tu veux vraiment, exposer le plus possible tous les vécus. Et bon, on peut pas faire du genré en 2026, mais le fait d'avoir une femme autour du panel, ça aurait pu peut-être calmer les ardeurs, non?
Oui, peut-être, mais je vois pas. C'est bizarre, parce que c'est une bonne question que tu me poses, Pascal, parce que ce sont des féministes en mouvement. On aurait pensé effectivement que leur préoccupation numéro un, c'est la présence d'une femme, mais c'est pas ça. On prend par exemple Alex Boissonneau, on dit qu'il est, et je cite l'affiche, là, connu pour ses tendances de droite, ses discours urgentistes promouvant les concepts de capacité d'accueil et d'immigration incontrôlée.
Je connais pas le même Alex Boissonneau que moi, là.
Que beaucoup d'animateurs diraient complètement le contraire sur cet homme-là.
À Québec, oui, non, je sais. Ça. Non, mais la capacité d'intégration, ce n'est pas un concept urgentiste. Si vous avez une pièce dans un 4,5, si vous avez un 4,5, vous ne pouvez pas faire rentrer 1 million de personnes. Vous pouvez en faire rentrer un certain nombre. Si vous en faites trop rentrer, les gens vont tomber par la fenêtre et tomber par le balcon qui va fendre sous le poids des gens. Ça, c'est ça une capacité d'accueil. C'est la capacité de faire rentrer un certain nombre de personnes sur un certain territoire qui est muni de certaines institutions pour les accueillir. Benjamin Tremblay, on dit qu'il est préoccupé par les abus des immigrants tant par rapport à la bienveillance des Québécois qu'au laxisme législatif canadien. Je précise quand même que Benjamin Tremblay, le 99% de son travail concerne la géopolitique, là. Donc, on est peut-être allé chercher une affaire qu'il a dit à un moment donné et on dépeint un personnage en fonction de ça. Étienne-Alexandre Beauregard, c'est un ambassadeur, je ne savais même pas, et chercheur pour l'Institut Cardus, un think tank chrétien qui se positionne notamment contre l'avortement. Donc, Étienne-Alexandre, un ami à moi, il est pour l'avortement. On n'a jamais eu cette discussion-là autour de la table. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'axe dans ce type de conservatisme-là.
Exactement. Le point positif là-dedans, Rémi, c'est qu'il y a 10 commentaires positifs pour un commentaire de censure et que les gens veulent le dialogue. Ça me réconcilie avec les étudiants de l'Université Laval.
Oui, puis pas juste les étudiants, mais le monde en général. Ben oui. Et c'est précisément ce que tu viens de dire, Jeff, c'est-à-dire qu'on dit on est pour le dialogue. C'est pas qu'on dit, par exemple, ah, gang d'extrême gauche, gang de ci, gang. Il y en a des commentaires comme ça, en toute franchise. Mais ce que je remarque le plus, ce sont des gens qui disent arrêtez, une conversation, ça n'a jamais tué personne. On est capable, ça va bien aller. Ajoutons un petit arc-en-ciel si ça vous tente.
Rémi, deuxième sujet, la guerre en Iran, ça fait la manchette à chaque jour. Là, présentement, le détroit d'Ormuz est bloqué. Il y a peut-être des pays qui vont venir aider les Américains. Mais là, si on est autant dans de beaux draps avec cette guerre-là, c'est parce qu'on a les États-Unis qui ont décidé de bouger seuls. On a une Amérique qui ne se tient plus du tout, là.
Non, pour gagner une guerre, là, c'est vieux comme le monde, puis l'une des meilleures leçons de ça, c'est la guerre du Vietnam, si on prend l'exemple américain. Ça prend une nation unie et soudée derrière un objectif commun. Et l'Amérique est divisée, d'accord? Pas depuis Trump. Trump a pris le pouvoir en 2016 et en 2024 en étant capable d'aller chercher une majorité de gens qui pensaient comme lui, mais l'Amérique était tout autant divisée avec un Joe Biden, par exemple, et vers la fin du mandat de Barack Obama. c'est difficile pour les Américains de se lancer dans une guerre. Vous avez une majorité de personnes qui disent non, ça ne nous tente pas. Non, nous, on est encore traumatisés par l'Irak, par l'Afghanistan, par des soldats qu'on a envoyés là-bas pour rien, parce que beaucoup sont revenus dans des bas des bagues. Et finalement, qu'est-ce que ça a changé en Irak? Qu'est-ce que ça a changé en Afghanistan? Les talibans ont repris le pouvoir. Donc, tu ne peux pas gagner une guerre, surtout pas face à une civilisation comme l'Iran. L'Iran, elle, a la capacité de se tenir beaucoup plus soudée que l'Amérique en ce moment, qui, à certains égards, est décadente, ne s'entend plus sur des codes de conduite et sur certaines valeurs et certains principes. Donc, moi, je vois cette guerre-là s'en aller directement dans un mur. Les Américains vont sortir progressivement de ça, vont devoir annoncer aux Israéliens que ce n'est pas leur guerre, que c'est la leur, à eux, les Israéliens, et qu'ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, et surtout qu'ils n'ont pas d'acceptabilité sociale. C'est pas possible de gagner une guerre quand vous êtes aussi divisé à l'intérieur. Quand vous avez, par exemple...
200 milliards de dollars qu'on a dit que ça pourrait coûter à terme. C'est clair que les Américains ne veulent pas.
Mais dans les années 70, il y a un rescapé des goulags qui s'appelait Solzhenitsyn, qui s'était réfugié au Vermont et qui avait fait un discours à l'université Harvard. Donc, les étudiants de Harvard s'attendaient à un discours anti-URSS. Et lui, c'est un rescapé des goulags qui est venu dire aux Américains, dans les années 70... Le problème avec vous, c'est que vous ne formez plus une société. Si vous manquez d'électricité pendant 24 heures, vous allez commencer à péter des voitures et à voler des magasins et à aller voler chez le voisin, alors que chez nous, on est capable d'en manquer pendant un mois et on est capable de s'entraider parce qu'on forme un tout uni. C'est un visionnaire, cet homme-là, parce que 50 ans plus tard, je ne peux pas imaginer, dans un scénario même optimiste, que les États-Unis ont réglé ce problème-là.
Je pense qu'il joue aussi avec le sentiment de sécurité des Américains qui est hautement ébranlé depuis quelques années. T'sais, on a vu même le peuple se fragmenter au sein même des États, au sein même d'une municipalité, les gens s'en prennent aux autres. Puis là, de savoir par le secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth, qu'il n'y a même pas de plan pour finir la guerre, ça les insécurise, c'est sûr. Déjà, dans leur propre municipalité, la ville, ils sont en train de s'entre-déchirer. Tu vas y aller par État, tu vas y aller par pays, tu vas y aller avec le Canada puis ses alliés habituels. Puis après ça, tu t'en vas dans le monde avec aucun plan fixe. Peut-être qu'ils commencent à se rendre compte de l'ego et de l'impulsivité de leur chef d'État, de Donald Trump, tout simplement.
Ben oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs niveaux de division. Tu as la population qui est divisée, oui. Puis tu as aussi les plus proches de Donald Trump. Tu as le numéro un du counter-terrorism, de l'antiterrorisme qui démissionne. Dans le Wall Street Journal, la fin de semaine dernière, samedi, c'était démontrer là, dans le détail combien Donald Trump s'était bâti un petit entourage avant de déclencher la guerre le 28 février, puis il y avait bien peu de gens autour de lui dans les deuxièmes niveaux de proximité qui étaient informés de ça, puis qui étaient surtout d'accord avec ça. Donc, vous avez une base qui est MAGA est divisée en deux, vous avez une population qui est divisée en deux, puis vous pensez vraiment que vous allez gagner la guerre contre une civilisation perse en plus de ça? Mm-hmm. Impossible.
Rémi Villemur, c'est toujours un bonheur de te jaser. On parle avec toi les mardis et jeudis à l'émission On en jase aux alentours de 13h10. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end et du bon temps sur les ondes du 99.5 Montréal.
Bye-bye à vous deux. Toujours un plaisir.
Salut Rémi. Rémi Villemur, chroniqueur pour nous à l'émission On en jase et animateur au 99.5 Montréal.
C'est capoté comment... Tu sais, je vais pas me péter les bretelles.
Oui, oui.
Mais je vais quand même taper sur l'épaule sur une chose.
Vas-y donc.
Donald Trump, quand il est revenu dans son mandat, je disais qu'il était revanchard cette fois-ci puis que... il y avait un mauvais leadership.
Ouais.
Tu vois à quel point le leadership, c'est important, c'est capoté.
Ben, vraiment.
Il a rallié qui, finalement? Il rallie personne, il se rallie lui-même.
En effet.
Quand il y avait des gens derrière lui, c'était souvent par peur, par bénéfice pécuniaire.
Non, t'as entièrement
pour
raison.
Pour l'argent, là. T'sais.
Non, t'as entièrement raison. C'est un mandat très...
J'espère qu'on va apprendre de ça.
Oui,
clairement. Le leadership en politique, il est extrêmement important.
Oui, clairement. En même temps, les gens voulaient cette coupure-là avec ce qu'ils avaient vécu, mais la coupure est pire que ce qu'ils avaient avant. Après cette courte pause, dans un instant, Boulevard 101, c'est Lani Dufour, chroniqueuse économique pour nous, qui vient s'installer. On a parlé du budget, Pascal, les finances publiques, les infrastructures, l'itinérance, la Ville de Québec. On a le temps de parler un peu d'économie. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que ça va de soi, en plus.
Exactement. C'est ce qu'on fait dans un instant, Boulevard 101, à l'émission On en jase. On a du fun à l'émission On en jase. Si vous voulez venir nous voir, avoir du fun, c'est twitch.tv/BLVD/FM. On en dit des niaiseries. BLVD 102.1, c'est l'application App Store, Google Play Store. Allez télécharger ça, vous pouvez nous écouter partout où vous êtes. Surtout, vous êtes un fan de Lani Dufour qui vient du Saguenay, puis vous êtes au Saguenay, là. Puis télécharger ça. Et BLVD.fm, web radio, meilleur moment qui s'y retrouve par la suite. Pascal, avant qu'on parle avec Lani, notre chroniqueuse économique, concernant le budget, il y a un nouvel escalier du Faubourg, là. 1,4 million, c'est bien ça?
Oui, mais dans le fond, c'est ce que ça prendrait pour l'escalier du Faubourg, pour le reconstruire. Ça vient de tomber.
Ça, travaux... c'est l'escalier que des citoyens avaient pris des photos, hein, puis avaient dit, hey, checkez ça, comment c'est rouillé.
C'est délabré, puis c'est
rouillé. Puis c'est l'escalier que la ville avait dit, non, il n'y en a pas de problème.
Oui, bien, on est habitué de se faire dire, il n'y a pas de problème dans n'importe quel palier.
Il n'y a pas de problème, mais ça coûte 1,4 million.
Pas de problème, ça prend 16 semaines. Dès 2027, on s'y met, puis ça va prendre 1,4 million de dollars pour le reconstruire. Donc, on va le reconstruire à l'identique. En 2027, là, on devrait être là-dedans. Donc, on a fait un appel d'offres, puis on le défait, on le reconstruit.
Citoyen en commercial, blvd.fm, vous avez des situations comme ça. Mathias Turcotte va se faire un plaisir de vous accompagner et d'amener votre dossier en onde. Pascal, j'ai un devoir pour toi pendant qu'on va être avec Lani.
Je le sais où tu t'en vas.
Je t'ai transféré ça. Il y a beaucoup de lignes. C'est quelqu'un qui nous écrit beaucoup ces temps-ci. Ah, Sylvain Junot, ingénieur. Maire de Saint-Augustin. Ça te dérange-tu d'essayer de le lire pour bon. Après Lani, qu'on sache qu'est-ce que Sylvain Junot
nous a écrit
aujourd'hui?
Je t'adore, Lani, mais je vais me déconcentrer de ta chronique.
Ça te dérange pas, je te donne cette mission-là.
Pour me concentrer sur cette récidive du maire de Saint-Augustin.
Mais il n'est pas en guerre avec Bruno Marchand.
Non, mais
il nous l'a dit lundi, il nous l'a dit mercredi en onde, il n'est pas en guerre avec Bruno Marchand.
Qui s'exprime, pas de problème, mais je trouve ça toujours étrange qu'il s'exprime de façon publique et non entre eux.
Oui, exactement. Mais attends, c'est difficile. Alors, les numéros de téléphone. Ah non, j'ai celui de Sylvain Junot, puis j'ai celui de l'attaché de presse de Bruno Marchand dans mon cellulaire. Je pourrais peut-être le renvoyer.
Bon,
leur dire, parlez-vous.
Bon, je m'y mets.
OK, parfait.
Médiateur.
Oui, c'est ça. Ah oui, je préfère le médiateur. C'est cœur, hein? Trêve de présenterie. Lani Dufour est avec nous, notre chroniqueuse économique de Catapulte Communication. Lani, comment vas-tu?
Ça va bien, vous?
Ça va super bien. Bel événement de Catapulte Communication hier.
Grosse soirée, mais c'était le fun.
Excellent.
C'est nos Olympiques, les budgets, les élections, donc faut célébrer après, hein?
Nous autres, on a été énervés quand le Canada jouait au hockey contre les Tchèques en studio, puis Lani est énervée pour le budget.
Chacun ses sports.
Exactement. Lani, dis-moi donc, je veux parler beaucoup d'économie, de région avec toi, puis il y avait une industrie que j'attendais fortement le budget. Pour eux, c'est l'industrie forestière, parce qu'elle est durement touchée par les tarifs de l'administration Trump. Et là, on offre 360 5 millions en aide à cette industrie-là. Est-ce que c'est suffisant?
Bien, c'est sûr que tout le monde, quand le budget sort, va dire que c'est pas suffisant. Je dirais que c'est plus un peu que l'année passée. On était plus dans le travaux sylvicole. Tu sais, l'argent dans le budget, il y en a de façon récurrente. Il n'y a pas souvent des nouvelles enveloppes pour aller innover. Là, par contre, on vient vraiment mettre un 164 millions pour les entreprises forestières en réponse aux difficultés. Fait que là, on est vraiment ciblé dans cette portion-là. L'autre, après ça, c'est un 200 millions. Puis là, je parle comme si c'était pas beaucoup, mais pour les besoins de l'industrie, c'est pas tant que ça. Là, on veut vraiment maintenir l'engagement du gouvernement envers les communautés forestières. C'est ce que je te disais. Tout ce qui est sylvicole, tordeuse de bourgeons d'épinette, ça, c'est à chaque année, c'est là. Mais est-ce qu'on parle du régime forestier qui permet de donner de la prévisibilité aux entreprises?
Non.
Puis de contrer les contre-tarifs. Et donc, peut-être d'avoir un fonds pour ce que nous, on charge aussi aux États-Unis en contre-tarifs pour redonner. L'aluminium demande la même chose. On voit pas ça.
OK. Donc, c'est incomplet comme mesure. Je suis mal fait, puis il y a des auditeurs qui sont mal faits comme moi. Je demeure toujours sceptique. Quand on me dit Nordvolt avec les batteries, ça va révolutionner l'industrie, j'étais sceptique. Malheureusement, mon scepticisme l'a emporté. Là, on me dit 2,5 milliards. On va développer nos minéraux critiques. On amène ça dans l'armement. J'étais encore sceptique. Faut-tu que je sois sceptique ou non?
Honnêtement, les minéraux critiques stratégiques, on vient vraiment se coller sur le fédéral là-dessus. Là, ils ont annoncé durant un événement qu'il y avait à Toronto, le PIDAC qu'on appelle, je ne peux pas te dire le nom complet, il est en anglais, puis c'est mieux qu'on reste avec PIDAC. Mais ils veulent vraiment investir là-dedans parce qu'il y a du potentiel, mais surtout parce qu'il y a de l'argent privé aussi. Parce que oui, Nordvolt embarque là-dedans. Là. Dans les minéraux critiques, il y a du lithium, mais tu as aussi, par exemple, au Saguenay, du phosphate. Tu as plein de... Toute l'industrie minière peut en bénéficier, mais il ajoute à ça aussi les municipalités. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a de l'argent pour soutenir les entreprises, les municipalités, pour développer ces projets-là. On est beaucoup en infrastructure, en industriel. Puis ça, c'est beaucoup plus collé sur le budget du gouvernement fédéral, Mark Carney.
Donc, c'est une bonne mesure du gouvernement provincial.
C'est une bonne mesure. Elle est bien accueillie. Tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de corridor du Nord canadien qui se passe au Saguenay. C'est encore un projet. Il n'y a pas nécessairement d'argent directement lié à ça, mais c'est sûr que ça peut avoir une incidence parce qu'on parle de corridors commerciaux, on parle de commerce, justement, puis de ferroviaire, de maritime. On manque au Québec d'infrastructures qui sont entretenues modernes. On a mis de l'argent de plus dans le PQI aussi cette année. Ça, c'est 71% en maintien des infrastructures. Donc, tout ce qui est public, la voirie, les routes.
Ce qui est une bonne affaire.
Ce qui est une bonne chose. Mais après, est-ce qu'on rattrape puis on est capable de développer des nouvelles infrastructures avec ça? Parce que le municipal embarque aussi dans le PQI. Avec tout ce qui est des besoins des municipalités, un centre de soccer, une patinoire, une piscine, toutes les écoles, les hôpitaux.
Oui, puis là, corrige-moi si je me trompe, mais quel équilibre je trouve justement entre ça, les besoins de la population puis mes besoins industriels, économiques? Voilà. L'équilibre n'est pas évident.
Il est difficile à trouver parce que souvent, tu te dis, bon, ben avec les besoins économiques, nos projets industriels, ça va ramener de l'argent dans les poches de l'État parce qu'il va y avoir des investissements, il va y avoir de l'argent, des emplois, des impôts. Quand on est du côté de la santé, de l'éducation, ça revient pas nécessairement, mais en même temps, c'est essentiel.
Exactement.
Parce que c'est une roue qui tourne. Donc oui, c'est un équilibre fragile, effectivement.
En plein ça. Pour les régions, est-ce que c'est un bon budget pour les régions? Ça va être une guerre dans la prochaine campagne électorale.
Oui.
Tout le monde va vouloir plaire aux régions, comme à chaque campagne électorale. Présentement, on voyait plus le PQ, le PCQ en avance dans les régions. Est-ce que la CAQ a fait le travail?
C'est pas un budget qui est ciblé pour les régions, mais c'est pas un budget qui est ciblé non plus pour le particulier. Quand on est au huis clos, des fois, il y a des ministres qui viennent faire des tours.
Ouais.
Le seul qui est passé, outre le ministre des Finances, c'est Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture.
Oui, lui, il y avait une bonne nouvelle,
voilà.
Les sorties
on
scolaires.
On n'a pas vu personne d'autre. Les sorties scolaires, ça, c'est
fait que ça, c'est un indicateur. Vous autres, quand vous êtes dans le huis clos, tu t'en vires d'abord, tu sais, OK, le ministre de l'Économie n'est pas là. OK, le ministre de la Région du Saguenay n'est pas là. Mais ça doit mal aller de ce côté-là.
Après, on laisse le show au ministre des Finances. C'est son moment à lui. Mais dans le huis clos socio-économique qu'on appelle, il y a de la visite parfois. Là, cette année, c'est le seul qui est venu faire un tour. Et j'attire votre attention, puis là, je réponds pas tant à ta question, mais c'est parce que j'ai vraiment trouvé ça drôle, puis c'est une petite anecdote.
Vas-y.
Mais j'ai parlé au ministre des Finances, puis je lui ai dit, qu'est-ce qu'on doit retenir? Là, si j'ai une affaire à retenir de ce budget-là, je vais où dans le budget? Il me dit la page A26.
C'est quoi ça, cette page-là?
La page qui s'appelle « Un déficit budgétaire parmi les plus bas au Canada ». Donc, il était bien fier de son déficit.
Oui, là, il parle toujours par rapport au PIB,
exactement. Etc. Donc, on a réussi, tu sais, au début 2025-2026, on était à presque 10 milliards. Là, on l'a descendu... on était à 13 milliards, on l'a descendu à 10. Puis là, on projette un 8,6 milliards. Donc, tu sais, on reste dans les milliards puis dans le déficit, là, effectivement. Mais ce rattrapage-là, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Puis ça nous positionne aussi bien dans le reste du Canada. Fait que là, à voir qu'est-ce que les agences de notation vont dire. Mais il était quand même satisfait de son budget.
Je termine notre entretien. Je pense à nos entreprises.
Ouais.
Il y a des subventions qui sont disponibles, des nouvelles subventions. On parle là, d'un total d'à peu près 600 millions, là, 693 pour être plus précis. Mais il n'y a pas d'allègement fiscal comme ils demandent, devrais-je dire, les entreprises depuis plusieurs années. Tu te situes où, toi, par rapport à ça?
Il y a moins de tout ce qui est crédit d'impôt, effectivement, parce que là, tu sais, dans ce temps-là, c'est vraiment un rabais. Je te dirais que ces montants d'argent-là, ils sont pas ventilés. On ne sait pas encore exactement où est-ce que ça va tomber, mais c'est ça à chaque année. Un budget, des fois, les gens sont comme « Ah, mais c'est pas précis ». Mais c'est normal, c'est le ministre des Finances qui donne des enveloppes avec le Conseil du Trésor qui dit « Oui, c'est bon, tu peux te jouer dans mon portefeuille ». C'est la job des ministres après de commencer avec les programmes. Est-ce que c'est assez? Bien là, on parle vraiment des secteurs d'avenir. On est encore dans l'industriel, dans la défense. On fait vraiment un petit chiffre beaucoup plus orienté vers les entreprises, les infrastructures. Puis on parle même de compétitivité puis de par l'innovation. Donc, chaîne de l'innovation, on n'avait pas ça avant. Là. On parle beaucoup de chaîne de production. Donc, je pense qu'on veut rendre le Québec plus productif. C'est ce que moi, je lis de ça. Est-ce qu'après, on va réussir à l'atteindre par des subventions ou par des programmes? Ça reste à voir. Ça va dépendre aussi de tout ce qui est la paperasse administrative.
La fameuse bureaucratie. En terminant, si tu avais une note à donner sur 10 au budget?
Hey, je suis vraiment poche pour donner des notes, mais je te dirais 6 parce que tu sais, sinon on serait beaucoup trop jovialiste. Là.
Oui, c'est ça, exactement. 6. C'est pas une catastrophe.
Non, c'est sobre, mais ciblé.
Parfait. Un beau petit budget beige pour nos citoyens.
Oui.
Cool. La ligne du four, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. On se parle la semaine prochaine. Pascal, après la pause, tu nous parles de cette troisième lettre de Sylvain Junot.
Restez là.
Maire de Saint-Augustin de Desmaures. Restez là. Si vous pensiez que la chicane était finie, là, le feu est pogné dans la cabane. Ah, tu restes silencieux, j'aime ça. Tu nous laisses dans le doute.
Restez avec nous.
À Boulevard 102, on en jase.
On en jase. Je sais qu'il ne me reviendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
13h50, l'émission qui tire à sa fin. Le retour de Gravel qui va suivre avec Denis, Audrey et Véro. Marceau le soir à 18h. Et par la suite, on reprend ça demain matin. Marceau le matin et également le point de Max. Marceau le soir, c'est pas très bon, hein, me semble qu'elle est là.
C'est pas très bon. On parle finance aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un contexte où impôts et autres, c'est super important d'en jaser ces temps-ci. Hein.
Exactement.
Alors, vous pouvez reprendre aussi la chronique que vous avez eue de Marc-Antoine Reed dans le show du matin, mardi dernier.
Sur le blvd.fm. Météo, il annonce un petit peu de neige. Ça a commencé à tomber sur Québec quelques petits flocons. Demain, ce sera moins 1 degré de la neige aussi, mais de la faible neige. 0 degré nuageux pour samedi et 1 degré neige pour dimanche. Bon, Pascal, qu'est-ce qu'il dit notre maire Junot, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures? Il rentre comment dans Bruno Marchand aujourd'hui?
Bien, je dirais pas qu'il rentre dans Bruno Marchand aujourd'hui. Il y a aucun moment où on nomme le maire. Regarde, une des phrases du début, c'est
«
La pertinence du projet n'est pas remise en question. » En parlant du tramway, il dit « C'est l'approche, le processus, le manque de rigueur, la prudence qu'ils sont. » Il parle de la gestion du projet, encore une fois, et il dit la règle de base, quand on ne veut pas de problème avec des gestes irréversibles, on veut des conditions essentielles, c'est le financement complet, les autorisations, le cadre contractuel et le dossier d'affaires complet. Et ça, c'est pas sécurisé. Puis il pointe encore du doigt, il attendait le budget, on le savait, le budget provincial, pour en rajouter une couche. Cette fois-ci, il l'a fait. Il a dit, selon les informations qu'on a eues dans le cadre du budget du gouvernement du Québec qui a été déposé, là, le projet de tramway n'a pas encore reçu son autorisation finale. Donc, le ministre des Transports va devoir présenter un dossier d'affaires complet au Conseil des ministres. C'est ça la suite. Il dit, il va falloir ensuite se prononcer formellement sur la réalisation du projet. Fait qu'il dit, on n'est pas du tout dans une phase normale de réalisation, là. On est encore à un projet qui est en discussion au sens décisionnel. Il met le doigt là-dessus. Il dit, le fédéral s'est même pas engagé encore pour 1,4 milliard de dollars sur 18 % et non 40 % du 7,6 milliard de dollars estimé budgétaire là, qui date de 2024. Fait que, il revient avec plein d'exemples aussi à travers le monde. Édimbourg, Leeds, La Réunion en France, Édimbourg en Écosse, là, il revient deux fois là-dessus. Puis au Royaume-Uni, en disant, dans ces cas-là, des sommes majeures avaient été engagées. Si on a à se comparer, il faut se comparer avec des projets qui sont balbutiements, un peu comme nous, là, en ce qui concerne les engagements politiques. Pardon. Puis il dit, faut pas que ça devienne un SAAQ Click, Nordvolt, Lyon Électrique ou le Garage Newton du RTC, pour ne nommer que ceux-là.
Il continue à mettre énormément de pression sur les décideurs du projet, les décideurs qui sont le gouvernement provincial. Sinon, dans l'actualité...
Oui, mais il y a un autre chantier au centre-ville de Lévis qui est prévu cet été. Si vous pensiez, lévisiens, avoir un genre de soulagement, bien, les routes de votre arrondissement dans le coin de Desjardins, là, ça va être encore complexe parce que c'est l'élargissement du boulevard Guillaume-Couture et ça va compliquer encore une fois la circulation sur la principale artère de la ville. Et ça, à partir des prochaines semaines. Alors, ça a été annoncé ce matin. Les plans du chantier Guillaume là, pour l'été à venir, ça va être assez pénible. Il y a l'ancien président de production des Ferlandes, c'est Benoît Clermont. Il sera officiellement candidat pour le PLQ, le Parti libéral du Québec. On a appris ça dans les dernières heures. Donc, annonce officielle qui devrait être faite samedi. Il avait quitté ses fonctions en septembre dernier. Il disait qu'il explorait ses opportunités professionnelles. Voilà, on sait maintenant pourquoi.
Et voilà.
Et je termine mon bulletin en reparlant du 1,4 million de dollars que ça prend pour reconstruire l'escalier du Faubourg, ici à Québec. Là. 16 semaines, ça se déroule en 2027 et ça coûte officiellement 1,4 million de dollars. Hey, c'est un vieil escalier, 1931.
Mm-hmm. Un autre mensonge de la population quand elle avait dit « pas sécuritaire cet escalier-là ».
Faut croire que quand on l'a observé, qu'on l'a analysé, On s'est rendu compte.
Bruno Marchand parlait trop vite.
Faut le défaire puis le refaire. Fait que d'après moi, oui.
C'est ça, exactement. Canadien Red Wings ce soir à Détroit. C'est à 19h sur les zones d'RDS. Josh Anderson, l'attaquant puissant du Canadien, sera absent. Il est blessé. C'est Jacob Dobesch qui va être devant le filet. Lui qui a livré une solide performance contre les Bruins mardi au Centre Bell. Le meilleur marqueur pour les Wings est Alex DeBrincat avec 33 buts et 69 points depuis le début de la saison. Sinon, dans la Ligue nationale, dans les matchs importants pour la course aux séries, les Islanders de New York visitent les Sénateurs d'Ottawa. C'est à 19h également sur RDS2. Les Islanders seront les visiteurs à Montréal samedi contre le Canadien. Les Blue Jackets de Columbus accueillent les Rangers de New York à 19h. Et la première position dans la division atlantique, les Sabres de Buffalo, visitent les Sharks de San Jose. C'est à 22h.
Et ce soir, l'équipe de Boulevard 101 visite... Comment ils s'appellent déjà?
Je ne sais pas, je ne l'ai pas proche. Là.
Une équipe adverse.
La gang de Bellechasse est au centre de glace intacte assurance. C'est tellement raison.
C'est
de
ça le match
rappeler.
Aujourd'hui, c'est ça.
C'est ça. Venez en grand nombre.
C'est
gardez
gratuit.
Pas le Canadien. Cole Caulfield, c'est la petite bière à côté de Yannick Marceau et Max Larouche.
Pris eux comme exemple.
Pourquoi pas?
Mais sérieux, rendez-vous au Centre de glace 19h. Hein?
Oui.
C'est super beau moment. C'est gratuit.
Exactement. Denis Gravel s'amène avec Véro et Audrey. Nous, on se dit à demain midi. Salut, guys.
Salut.
De Boulevard 102.1.
Les dernières années ont été marquées par une augmentation du coût de la vie. Devant cette situation, le gouvernement du Québec a mis à votre disposition plusieurs mesures pour remettre de l'argent dans votre portefeuille, telles qu'un montant de 300 $ tous les 24 mois pour les lunettes ou les verres de contact des jeunes de moins de 18 ans, ou encore une aide financière accrue aux aînés. Découvrez toutes les mesures mises à votre disposition sur québec.ca/portefeuille-québécois. Un message du gouvernement du Québec.
Chez Scoop Vision, on a l'œil pour le style. Vous avez une chose à apporter, votre prescription. Après, on s'occupe du reste. Des lunettes au prix du web, mais avec du service en boutique. C'est le meilleur des deux mondes. Scoop Vision, le style commence par vos yeux.
T'es dans la construction? Prends action dès maintenant pour obtenir ta licence RBQ. Le groupe GSC forme et accompagne les entrepreneurs partout au Québec. Formation intensive, flexible et adaptée à ton horaire. En classe, en ligne ou hybride, visite groupegsc.com.
C'est le lunch chanceux de Subway, où on gagne chaque jour de la semaine. Et qu'est-ce qu'on gagne? Allons voir!
C'est le repas du jour Subway à seulement 8,99 $. Un sandwich 6 pouces, une boisson et des croustilles ou deux biscuits. Savoure un sandwich différent chaque jour, comme le pizza sub gratiné le lundi, un combiné de viande froide le mercredi, ou même un poulet teriyaki aux oignons doux le dimanche.
Exact! 7 jours, 7 repas, 8,99 $ chacun. Les repas du jour Subway. Un bon lunch, c'est pas une question de chance.
Le prix et la participation peuvent varier. Extra, boisson, bouteille, taxes et frais de livraison en dessous.
Vous entendez ce silence? C'est le futur qui arrive. Et il se conduit. Voici le Polestar 4. VUS coupé 100% électrique au design des plus audacieux. En location à partir de $359 aux deux semaines, à un taux de 0,99 $, 0 $ de